Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on discute quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça derrière, la
bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à l'émission 769. Aujourd'hui autour de la table, ben on va commencer par là, par Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Benoît, bonjour tout le monde.
Bienvenue Malika.
Bonjour auditeurs et auditrices.
Azad.
Salut tout le monde.
Oussine.
Bonjour.
Aline.
Salut tout le monde.
Myriam pour sa première
bonjour
émission.
Bonjour tout le monde.
Serge.
Bonjour tout le monde.
Coralie.
Bonjour, bonjour.
Olivier.
Bonjour.
Et puis Lydie.
Hello à tous.
Léo.
Hello.
Et Christopher.
Salut tout le monde.
Au programme de l'émission, on commencera comme d'habitude avec l'actu service. Ensuite, on aura une discussion sur les manifestations contre la loi immigration de notre gouvernement. Et puis avec aussi des liens, si j'ai bien compris, dans les échanges de ce matin avec le conflit israélo-palestinien. Enfin voilà, ça risque d'être un bordel pas facile à démêler, mais on va essayer de démêler un peu tout ça. On terminera l'émission avec une chronique sport, la météo de Malika. Et puis côté musique, on écoutera donc Vincent Cucheval, une surprise, Eddie De Preto. Et on commence avec le choix musical de Serge, c'est Roy Orbison.
Oui, bonjour, on va parler de Roy Orbison. C'est un auteur, compositeur, interprète américain de rock. Un pionnier du rock'n'roll, se nommait Then Big Go. Le titre c'est Only the Lonely.
Only the Lonely.
Ok. Et c'est lui qui chantait la bande originale du film Pretty Woman, souvenez-vous. Pretty Woman. Dum, 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 dum.
Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely. Only the lonely know the heartache I've been through. Only the lonely know I cry for you. the chance, you gotta take. If you're lonely, heartbreak, only the lonely.
Les Entonnoirs, émission 769, tout de suite, c'est l'actu service. Jingle.
Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir.
Madame, monsieur, monsieur, bonjour.
Qui veut commencer ? Oussine.
Alors, bonjour. Alors, pour commencer, les crues, le gel et l'incertitude figent l'avenir des sinistrés de l'eau de Marvan. Alors, on remplit encore 3 seaux d'eau par jour et la peur des briques qui éclatent et le carrelage qui saute. Ils en sont tous encore groggy.
Je vais reciter Rachid dans l'émission Les Entonnoirs de la semaine dernière. Hein. Bon, ils habitent dans les marais, hein, fallait s'y attendre. Hein. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien la misère pour les gens qui habitent là-bas.
Ils sont en galère.
Et puis là, avec les pluies qu'il va y avoir cette semaine, ça ne va pas s'arranger. La suite.
Ensuite. La condition publique reprend les concerts petit format, après une coupure d'un an. Alors, le Comedy Club pour le 2 février, et plus proche, le 26 janvier, nuit jamaïcaine.
Ouais, c'est ça.
Sinon, en dehors des petits concerts, il y a aussi le groupe I Am, qui est au complet déjà, et MC Solar, mais c'est pour le mois d'octobre.
Ouais, ça, ce ne sera pas des concerts petit format. C'est plutôt du grand format, mais les concerts petit format, c'est des concerts qui faisaient, par exemple, souvent le jeudi soir ou le vendredi soir ici, avec bah, soit des DJ, soit des groupes
locaux.
Ouais, voilà. Donc je pense que c'est un peu dans cette idée-là. Les concerts petit format qui reprennent à la condition publique à Roubaix, c'est là qu'on enregistre nos émissions tous les lundis, je vous le rappelle.
Ouais. C'est bon pour moi.
Nicolas.
Bah, bonjour tout le monde. Moi, je voudrais parler de ce qui s'est passé à Angoulême. Dans un lycée, il y a eu une violente bagarre avec, je sais pas, il y a eu des blessés. J'ai pensé à mon frère parce qu'il a été dans une école à Angoulême. Mais il est revenu dans le Nord. Je pense. Je crois que j'ai d'autres idées, mais je m'en souviens plus.
Ok, c'est pas grave. Tu n'hésites pas à réagir en cours d'émission. On va donner la parole à Olivier, puisque toi aussi, tu avais des sujets concernant un sujet concernant la condition publique, si je ne dis pas de bêtises.
Ah oui, mais Oussine vient d'en parler.
Ouais, mais c'est pas le même sujet que toi, c'est pas le même angle.
Oussine nous parle
des concerts. Je te mets en difficulté. Non.
Oh, c'était dans le journal du vendredi 19 janvier 2024. Et... voilà, c'est pour parler de l'historique et un peu de la condition publique.
Bah, c'est surtout un article qui, si je regarde les photos, hein, qui présente la condition publique comme un lieu touristique qu'on peut venir visiter, comme un autre lieu touristique hein, d'ailleurs.
Ouais.
Visiter les jardins sur les toits, visiter la rue couverte. Ouais.
Et aussi faire pour les jeunes du skate, jouer au basket... au tennis de table, dans une immense salle. Sans parler des concerts, je ne vais pas répéter. Pour le groupe IAM, il n'y a plus de place. Et pour MC Solar, c'est octobre. Alors,
est-ce qu'il y a encore des places pour MC Solar, Lydie ?
Visiblement, oui, j'ai réussi à prendre la mienne ce matin.
Voilà.
Elle était alerte, hein ?
J'aime bien MC Solar, moi. C'est du rap, mais j'aime bien. Ça me dérange pas.
J'aime bien la phrase « c'est du rap, mais j'aime bien ». Ok, la suite, Olivier.
Oui, il y a Juliette Fricoteau dans la page en dessous de la condition publique, la doc page 6. C'est Juliette Fricoteau que... Elle a été doublement transplantée du cœur. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y a des gens qui se sortent de l'OC avec des traitements, des nombreux anti-rejets. C'est dur à soigner. cette Juliette Fricoteau est vraiment une battante. Elle a un CDD en alternance et on sait que qu'il y a des jeux nationaux des transplantés, des championnats du monde de transplantés cardiaques. On peut les retrouver dans la course à pied, le bowling, la pétanque, la natation et le cyclisme. Voilà, je suis vraiment tout en admiration envers cette jeune femme qui a le sourire dans le journal Nord-Éclair à la page 6 du vendredi 19 janvier 2024. Après, c'est pas fini. Quelqu'un d'autre que je retiens, c'est Bernard Klein, un enseignant de mathématiques. Et alors, il était prof de maths. Il a reçu la médaille du bénévolat à Roubaix. C'est quelqu'un de 70 ans qui a fait beaucoup pour une association de vélo. Et aussi, il a été donné des cours. Accrochez-vous bien à vos sièges dans le PSM de Saint-André. Donc en milieu psychiatrique. Alors il a fait beaucoup d'efforts pour les autres et même il n'a pas fait que des cours dans l'hôpital de désaliénation, il y a des cours aussi à Victor Provost, je pense. Voilà. Alors après
un homme que tu admires, quoi.
Ah bah ouais, c'est pas Monsieur Tout le Monde qui le fait, hein.
Allez, sujet suivant.
Ouais. Le sans-alcool est tendance et pas qu'en janvier. Ben voilà. Ça fait bien longtemps qu'en Belgique, ça avait déjà débuté. Mais des premiers bars, ils cavistent sans-alcool. Et avec des bières et du vin sans-alcool, même de la vodka sans-alcool, champagne sans-alcool, ça j'ai pas vu. Mais le sans-alcool, c'est un métier à Tourcoing, là, il y a Nesrine.
Je dirais même un mode de vie.
Ouais. Mais tu vois, les gens, ils viennent et des fois, on les retrouve en train de danser, même qu'ils sont pas ronds.
Quoi ? Des gens qui dansent sans avoir bu ? C'est mais possible,
oui, mais
ça ?
Mais si, c'est possible.
Aline, tu veux intervenir peut-être ?
Oui, quand il dit en janvier, je pense qu'il a parlé du Dry January.
Oui, c'est ça.
Qui est le mois sans alcool, où on doit faire un mois sans alcool, sans forcément être alcoolique, quoi. Mais c'est le mois sans alcool. Donc je pense que les bars que tu cites doivent bien marcher pendant ce mois.
C'est clair.
Où on est sans alcool pour tout le mois.
Nicolas, c'est un rapport avec le sujet ?
Oui.
Vas-y, on t'écoute.
Bah, y en a qui sont têtus, hein, y en a qui en boivent quand même. Mon père, c'est pareil.
Y en a qui n'arrivent pas à arrêter.
J'ai d'autres informations.
Alors attends, non, Nicolas, on va terminer sur le sujet de Olivier quand même.
Oui. Bon, c'est des paroles assez dures, mais je ne bois pas et je t'emmerde.
Ok. Ça, c'est quelqu'un qui témoigne dans l'article, c'est ça ?
Ouais. Hein, c'est vrai, c'est beau la convivialité, mais on a le droit de dire non. Ouais.
Ok.
Et bon, bah, pour avoir un foie pas gros, il faut pas boire. Remarque-nous tous les médicaments qu'il y a dessus, Fabien.
Je suis moyen d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les boissons sucrées, les sodas, les trucs blindés de sucre, tu peux ne pas boire une goutte d'alcool et te retrouver quand même avec une cirrhose.
Mais tu me fais penser à quelque chose.
Ouais.
J'ai entendu à la radio, une radio belge, il disait que l'eau en bouteille est plus dangereuse que celle de l'eau du robinet parce qu'il y avait le contact avec le plastique de la bouteille.
C'est vrai, Fred en avait parlé.
Bah, je suis écœuré, moi. Enfin, je sais plus où mettre ma... Je sais plus où donner de ma tête. Voilà, j'ai fait mon actu.
Alors, t'as le choix entre de l'eau au contact avec le plastique et l'eau avec des pesticides et du chlore. Et voilà. Sinon, t'habites à la montagne et t'as de l'eau de source.
Mais bon, voilà. Moi, j'achète de l'eau minérale et je la verse dans un récipient en verre.
Ok.
Ouais, mais ben... j'étais à Lourdes et j'ai pas guéri non plus.
Ah, l'eau bénite, c'est pas con ça, tiens. Ok, merci Olivier.
De rien, c'était un plaisir.
On va aller, on va continuer dans ce sens-là. Tu gardes tes sujets pour tout à l'heure, hein, Nicolas. Coralie, c'est à toi maintenant. Prends le micro, vas-y.
Ah, pardon. Donc le parc aquatique Aqualibi, c'est juste à côté de Walibi. Donc c'est dans le Havre, en Belgique. Et en fait, ils viennent de rouvrir... Ils viennent de rouvrir après 8 mois de travaux. Donc en fait, ils ont rajouté plus de toboggans, plus de jeux, de vagues, d'extensions. En fait, ils ont agrandi le truc, quoi, tout ce qui était jeu. Et ils proposent aux personnes d'aller tester. Avec
gratos Non, c'est pas gratos.
Non. Avec cette période d'hiver, ils disent que... Avec cette période d'hiver, ils disent que ça serait bien d'aller passer un bon moment au chaud dans l'eau, quoi.
C'est un article que tu as eu dans quel journal, ça ?
La Voix du Nord.
Alors, ça, je l'ai eu dans...
Dans La Voix du Nord, le réclair.
La Voix du Nord, ouais.
La Voix du Nord.
Ah, ok. Quelqu'un connaît ce parc Aqualibi, hein?
Non, je connais Walibi.
Oui, Walibi, ouais.
Vous connaissez pas?
Bah, de
c'est
nom,
pas loin,
mais.
C'est pas loin de La Panne, je crois.
C'est pas Walibi?
Ouais, c'est pas loin de La Panne.
C'est à Wavre.
À Wavre, Léo est déjà allé. Léo, un témoignage, une anecdote, un souvenir sur Aqualibi, Léo?
J'y suis allé une fois, bien avant les travaux, ça fait déjà un moment. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est déjà, ils ont une espèce de. Parcours jungle ou je sais pas trop quoi, avec des rapides, tout ça, qui est super agréable à faire. Et ils ont un toboggan descente rapide.
Ok.
Qui était. Alors avant, parce que là j'ai vu un petit peu toutes les nouveautés qu'ils ont fait, donc c'est des trucs un peu de malade, avec des descentes en bouée, avec des espèces de tourbillons, je sais pas trop quoi, où on tombe au milieu, au final. Les toilettes, voilà, c'est ça. Enfin, je suppose qu'ils appellent des toilettes, mais en tout cas, ça y ressemble. C'est assez classe. Oui, bon,
tu disais quoi, Lydie? T'as failli quoi?
J'ai failli perdre un bras cet été dans ce genre de... Ouais,
je suis pas sûr que les travaux soient une bonne idée finalement.
Ce que j'ai retenu de la phrase, c'est que Lydie a failli perdre un bras dans des toilettes. Voilà, c'est ce qu'on retiendra.
Voilà.
Au niveau détente, il y a quelque chose là-bas? Se détendre?
Ouais, alors il y a des espaces enfants forcément, mais il y a aussi des espaces parents. Hein. Ouais. Y a alors
c'est détente, bien d'emmener son enfant en piscine, mais bon, les mamans, si elles peuvent se détendre...
Elle n'est pas censée surveiller son enfant, la maman?
Si les enfants sont un peu plus grands, pourquoi pas?
Ouais.
Si c'est des poutchous, non, vaut mieux pas.
Ouais, c'est sûr.
Tu peux la petite cascade, là, où tu peux y aller, tu te détends, tu te laisses porter par l'eau, t'as des trucs sympas, tout ça...
Jusqu'au moment où tomber dans la chasse d'eau, quoi.
Ah non, c'est pas encore la chasse d'eau, là, ça n'existe pas à cet endroit-là. Bon, après, la chasse d'eau, si tu veux y aller, tu vas.
C'est marrant, je connaissais pas cette attraction, la chasse d'eau. Tu dois vraiment te sentir comme une merde, en fait, non? Ok, la suite. On en est à qui? Je sais que t'es impatient, Nicolas, mais tout à l'heure, t'as eu le micro, tu m'as dit j'ai plus d'infos, donc maintenant, tu vas attendre la fin, on va faire le tour dans ce sens-là.
Ok.
Merci, Coralie. Serge, est-ce que t'as des infos pour
J'en
nous?
J'en présente qu'un seul.
Ah, t'en as d'autres? Ah ouais. Bah vas-y, on t'écoute, alors.
Alors... La reine du Danemark a passé son couronnement à son fils, le prince Frédéric. Il s'appelle comme ça, le prince Frédéric. Donc après au moins 50 années de règne, elle laisse le trône à son fils. Voilà. Donc il s'appelle le prince Frédéric.
C'est parce que là, il a attrapé le bâton du maréchal.
Ouais. Donc ouais, en fait... Je retourne sur le verglas.
Vas-y.
Donc avec le verglas, y a plusieurs personnes qui sont tombées quand même.
Ouais,
avec le verglas, c'était hier. Il y a plus de personnes qui tombent avec le verglas. En fait, c'est les personnes très âgées et les enfants en bas âge. Donc ils ont vraiment pas de pitié. Il tombe comme... Même moi, je suis tombée, quoi.
C'est vrai? Ouais. Tu t'es pas fait mal?
Ouais,
Nicolas,
ça fait mal,
aussi, t'es tombé?
Ça fait mal, on sent quelque chose.
C'est parce que les enfants, ils s'amusent à courir et tout ça. Alors, c'est normal, après, ils tombent. Quand ils savent pas qu'il y a du verglas. Tes enfants de 2 à 8 ans, ils n'ont pas appris ça à l'école. Quand même.
Olivier.
Oui, mais quand il y a une météo aussi, aussi violente, on remarque que les municipalités, elles font pas face au problème, quoi. Il faudrait quand même du sel en face de chez tout le monde, quoi. Parce que comme vous dites, se retrouver à l'hôpital, la neige c'est bien pour les enfants, mais se péter un fémur, un bassin, c'est pas de la rigolade. Hein.
Ça peut être fatal hein, quand t'as un certain âge. Hein, donc.
Ils ont salé les grands axes. Et les petites rues et leurs trottoirs, ils les ont laissés comme ça. Ouais. Alors que c'est là où il y a plus de circulation piéton.
Allez, on passe à la suite.
Ouais.
Serge.
Ben ouais, ça s'est passé en Italie. Il y a le gardien du football à Milan.
Qui est Mike Maignan, qui est aussi le gardien de l'équipe de France d'ailleurs.
Ouais, ils l'ont traité de singe. Au bout de 36 minutes, il est parti. Alors, deuxième information, c'est Benzema attaque Gérard Darmanin parce qu'il a dit qu'il faisait partie d'un parti musulman radicalisé.
Ouais, c'est ça. Darmanin a certifié dans une interview à la radio que Benzema faisait partie des frères musulmans, ce qui est faux. Donc, Benzema porte plainte pour diffamation. Ainsi que envers Éric Zemmour. Voilà.
Troisième information. Je suis allé à un restaurant à Lers où l'on mange du couscous maison chez Chérif et Oussan. C'est ouvert le jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
C'était
lundi,
bon.
Lundi, mardi, mercredi, c'est fermé.
T'as pris quoi? Un royal, un couscous légumes.
Ouais, il y a couscous royal, merguez, épaule de mouton.
Daniel,
et...
ouais.
Poulet peut-être. Okay. Et vous avez de la soupe en rentrant.
Les boulettes aussi, non?
Hein?
Les boulettes aussi?
Ouais.
Ouais.
Les pois chiches. Vous avez pois chiches maison et harissa maison.
Harissa maison. Ouais. C'est-à-dire ils font pousser les pois chiches dans leur jardin.
Hein?
C'est ça, pois chiches maison, ça veut dire qu'ils font pousser les pois chiches dans leur jardin.
Non.
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 Ok.
Non, c'est la façon de le cuire. D'accord. Et puis celui qui aime pas, il y a steak frites.
Ah bien. Ok.
Pour les pois chiches, il les achète secs et il les trempe
dans l'eau
toute la nuit.
Et toute la nuit, c'est ouais. Ça, c'est ça, un truc comme ça. Ouais.
Comme c'est tout le monde,
maison.
Quoi.
Il veut dire ça par maison.
Ok.
Voilà, c'est tout.
Merci.
Merci.
Info suivante, Aline.
Oui, donc moi je vais parler d'un article qui concerne un pilote, un parachutiste. Donc à 80 ans après, ils retrouvent la famille du parachutiste que leur grand-père a sauvé. En 44, à Hazebrouck, Marcel Bélanger, forgeron, a sauvé un parachutiste allié en le cachant chez lui. 80 ans plus tard, ses petites filles ont retrouvé et pris contact avec la famille du soldat américain. La famille Lotte Bélanger, originaire d'Hazebrouck, et la famille Camp, qui vit aux États-Unis dans le Colorado, ont une histoire commune. Au printemps 44, le 26 mars, un B-17 américain se crache dans la campagne d'Hazebrouck à la Creule. Mon grand-père, Marcel Bélanger, raconte qu'il a repéré le point de chute de l'un des parachutistes. Il lui a porté secours et l'a caché pendant 2 jours dans sa forge, dans un réduit de la forge. Il n'a rien dit à ses enfants pour éviter toute imprudence. Il a été ensuite amené à Lille dans des tonneaux qui étaient censés contenir le vin. Et il a été amené à Lille chez une résistante nommée Léa Duhamour. Et il a été après attrapé par la Gestapo en avril 44. Il s'appelait Léo Lincoln Gritz. Il avait 27 ans quand il a atterri à Hazebrouck. Il venait d'avoir une petite fille, Talita Anne. L'avion portait son nom. C'est grâce à cet élément qu'on a réussi à retrouver la famille de Léo. Ils nous ont dit qu'ils considéraient notre grand-père comme un héros depuis toujours.
Ok, belle histoire. Merci Aline. On en est où? Quelqu'un a d'autres actus par ici à ma droite? Nicolas, allez.
Bah, aux États-Unis, il y a une voiture qui a dérapé, qui a foncé sur un camion. Parce qu'il y a eu là, du verglas. En plus, ça fait moins 40. Là.
À mon avis, il y en a eu plus qu'une.
Et une information positive, il y a une femme de 90 ans qui est championne du monde de course à pied. Mais pour son âge, hein, moi, je pense que...
Ah ouais.
Je pense que je la dépasse, hein, moi.
Bah vas-y, donc,
je prends un médicament, alors je sais pas si je vais courir autant. Mais...
Si tu veux, ouais, ce que j'allais dire, on relève le défi, on lui propose de faire une compète entre toi et elle, rien que pour les entonnoirs.
Non.
Ok. Ok, Christopher, tu as deux infos pour nous.
Alors, la première, alors c'est pas une info toute récente, hein, ça date de 2007, mais là, ça commence à sortir maintenant. Je vais vous raconter l'histoire de Hans-Jørgen Olsen. En fait, c'est un jeune Norvégien qui avait 12 ans à l'époque qui a décidé de faire une balade en forêt avec sa sœur. Et ils sont tombés nez à nez avec un élan. Et un élan, c'est pas tout mignon comme on peut le croire, hein, ça peut être très agressif. Et du coup, en fait, l'élan a commencé à regarder vers eux et à vouloir les charger. En voulant protéger sa petite sœur, en fait, ce jeune garçon joue à World of Warcraft. Je sais pas si vous connaissez. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Vous allez me dire, bah, comment ça se fait? En fait,
c'est clair.
Alors non, il y a pas fait boule
avait,
de feu.
Il avait sa manette Xbox dans la main, qu'il a...
Pas du tout. Pas du tout. En fait, il s'est rappelé que dans le jeu, en fait, il jouait un chasseur et que pour attirer l'élan, en fait, il s'est dit, faut qu'il aille attirer l'élan vers lui pour que sa sœur puisse s'échapper. Et du coup, il a provoqué l'élan en faisant un peu comme dans le jeu, ce qui a fait que l'élan, il s'est complètement concentré sur lui. Et il a été pour le charger que lui. Et donc sa sœur a pu déjà s'enfuir. Et en fait, il a fait une autre technique. Il a fait une autre technique qu'on fait aussi dans le jeu. C'est ce qu'on appelle feindre la mort. Et en fait, il s'est écroulé au sol d'un coup quand l'élan arrivait vers lui, comme s'il était tué, comme s'il était mort. Et l'élan s'est directement arrêté. Et du coup, en fait, un élan, quand il voit ça, il s'échappe. Et, enfin, il part et voilà, il calcule plus le truc.
Génial.
Un élan, c'est une espèce de gros renne. Ouais, c'est un voilà. Gros cerf, selon les pays nordiques. Donc voilà, ça c'était la première petite histoire. Ah bah si, c'est dangereux aussi, ça peut charger. Ah si, si, ça a des bois et tout. Ouais, mais nous, on n'a pas d'élan, nous c'est des cerfs, c'est plus petit un cerf. Un élan, c'est plus comme les gros rennes qu'on voit. Ouais, c'est plus comme les caribous et tout ça. Donc voilà, tu as quelque chose à dire par rapport à ça?
Monsieur, madame, monsieur, prenez de l'élan.
Myriam, tu avais une question. Ouais.
Ouais, j'avais une petite question. Est-ce que tu sais par hasard combien ça pèse un élan? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, on va dire, le gabarit. Mais
Ben, beaucoup, je pense que ça doit peser une bonne...
Je dirais bien 100, 150
kilos. Ouais, j'aurais dit ça aussi, 150 kilos.
Écraser,
ah ouais, oui, ouais. Et puis quand ça charge, quoi.
C'est un élan.
Ça tape, hein.
Ouais.
Donc voilà.
Deuxième info.
Donc, 500 kilos, ça pèse.
500 kilos, waouh la vache.
Ouais. C'est une grosse bête, hein. 500. Ah, y a de quoi manger dessus. Hein.
Comme quoi que être geek, ça a des bons côtés aussi.
Voilà. Parfois, ouais,
on
j'allais dit dire.
Toujours.
Christopher jouer. N'est jamais en reste quand il s'agit de nous rappeler l'utilité des jeux vidéo dans la vraie vie.
C'est donc. Important. Voilà. Ça sauve des vies. Deuxième petite histoire, nous allons en Allemagne, à Brême. Donc là-bas, il y a un Lidl où le parking, en fait, pour pas que les gens squattent le parking trop longtemps, c'est. En gros, dirigé par une entreprise de surveillance. Et en fait, on peut rester que 90 minutes sur le parking. Au-delà de ça, on a une amende. C'est comme un parking un peu privé. Parce qu'il est jugé qu'en 90 minutes, on a le temps de faire ses courses à Lidl. Oui.
Pour, voiture, comme...
Bah, pour les voitures, non, c'est pour garer sa voiture.
Pour les voitures.
On peut se garer que 90 minutes. Et il y a un monsieur qui s'est garé 39 minutes, qui a été à Lidl pour acheter des trucs. Il a acheté pour 34 euros. Donc voilà, jusque-là, tout est normal. Et il s'est pris une amende de 35 euros. Donc le monsieur, il comprend pas trop. Il dit, ben, comment ça se fait? Je suis resté que 39 minutes. Du coup, il a été les voir. Et là, il leur dit, bah oui, mais par rapport à ce que vous avez acheté, au montant, 34 euros, ben, fallait pas rester 39 minutes. Donc ils bloquent et tout. Et en fait, ils ont dit, en plus, avant, vous étiez garé, alors pas sur notre parking, mais un peu plus loin, devant un truc de fitness. Et le monsieur, il dit, bah oui, mais j'ai fait du fitness pendant une heure et demie, donc il a tous les justificatifs hein, qui prouvent comme quoi il a fait du fitness par le truc de fitness, et puis c'était pas sur le parking de Lidl. Et en fait, ils veulent pas lui enlever son amende de 35 euros en disant, bah oui, mais non, parce que 39 minutes pour 34 euros de course, c'est pas assez. Donc voilà. Alors heureusement en France, les Lidl ne font pas encore payer les parkings, mais voilà quoi.
C'est fou. Donc voilà. Il y a pas de suite c'est à l'histoire, c'est-à-dire genre.
Alors là pour l'instant en fait ils veulent pas enlever l'amende, la société là en disant ben non parce que 39 minutes pour 34 euros de dépenses c'est pas assez.
Eh bien, ça fait une belle publicité à cette chaîne de magasins que je ne citerai
en tout cas,
pas
en Allemagne
dans cette émission. Voilà. Donc, voilà. Merci tout le monde, merci Christopher. Des réactions, Serge ouais.
En parlant d'animaux, moi j'ai vu quelque chose d'imaginable. Un hippopotame tuer une lionne. Fait une gueule.
Ah, mais un hippopotame, c'est hyper dangereux. Hein. Ah, oui. Et puis, c'est hyper agressif, ça a super mauvais caractère et ça peut tuer un félin facilement. C'est et une girafe aussi, ça peut tuer un félin. Parce que la girafe, quand elle est lancée, le félin, il n'arrive pas trop à l'attraper et il se fait piétiner par la girafe. Voilà.
Allez.
Comme quoi, méfiez-vous des hippopotames et des girafes.
C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, ouais, exactement. Musique choisie par Coralie, tu nous as choisi.
Love and tendresse.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement, pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes, entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour rattraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça. À faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. 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 Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love.
Émission 769 des Entonnoirs, la suite c'est une discussion que vous vouliez avoir quand on a préparé l'émission ce matin. Je ne sais plus qui avait lancé le sujet, c'était toi Serge qui parlait ou Olivier qui parlait des manifestations anti-loi immigration.
Bah oui, c'est un sujet qui fait un peu peur, qui m'angoisse. Qu'il y a des gens qui sont pour ou contre une réforme sur l'immigration. Tout ça, ça me fait un peu peur, c'est un peu chelou, ça m'angoisse. Il n'y a pas que ça qui non plus qui me contrarie, c'est aussi le territoire, ils veulent faire un territoire palestinien, mais qu'on ne trouve pas de solution. Je comprends pas vraiment les politiques de là-bas, ce qu'ils veulent faire comprendre. Je comprends pas pourquoi c'est devenu comme ça, quoi. Le monde, il est bas quand même, quand on, je pense.
Houssine ou Azad ? Azad, on t'a pas encore entendu, tiens.
Ouais, moi, je pense que c'est une bonne chose. La manifestation anti-immigration.
Il faut un anti-loi quota. Immigration. C'est pas une manifestation contre l'immigration, c'est une manifestation contre la loi.
Ah oui, contre la loi anti-immigration. Parce que je pense qu'il faut un quota, quoi, pour que la France soit pas non plus envahie de tout bord.
Ah ok, toi tu... Donc du coup, tu n'étais pas du côté des manifestants, c'est du côté du nouveau texte de loi, c'est plutôt ça ?
Ouais.
Ok, d'accord. Houssine ?
Moi, c'est pas en rapport avec ça, c'est en rapport de ce qui se passe en Israël et en Palestine. C'est pas ce que j'ai entendu dire, mais ça reste que des oui-dire, que Israël voulait annexer Gaza.
Ok.
C'est ce que j'ai entendu dire.
Je t'avoue, ça a pas été c'est pas mon sujet de prédilection. Donc
c'est ce qui se dit de bouche à oreille.
Azad.
Mais je pense que ce que dit Yossine, c'est pas tous les Israéliens, je pense que c'est juste les dirigeants ou certains extrêmes sionistes quoi, qui veulent faire ça, je pense. Ouais, c'est pas représentatif d'Israël.
D'autres réactions, d'autres. Serge.
Bah, ça fait depuis 1948 que ça dure. Alors, bon courage. Hein.
C'est vrai.
1948. L'anti-juif, c'est depuis 1933, à partir de Adolf Hitler. Ça fait 90 ans.
Ça fait. C'est ancestral, hein, la haine des juifs, hein, tu sais.
Ouais, Serge, même c'est... pharaon. Ouais,
c'est... Heureusement, on oublie la journée du 7 octobre. C'est ce qui a tout déclenché. La journée du 7 octobre, il n'y a personne qui a regardé. La journée du 7 octobre.
Si, si, on a démarré. On a bien vu, Serge, t'inquiète.
Voilà, tout.
D'autres réactions, d'autres questions ?
Ah, ça va pour moi.
Moi, je ne comprends pas trop l'immigration.
C'est-à-dire ? Prends un micro, Coralie.
Je pense que c'est... Vous me dites si c'est ça ou pas. Ceux qui viennent en bateau dans le pays, c'est ça ?
Par exemple, ouais, ça en fait partie.
Ah ouais, bah, là, on a eu 17 morts, on en a parlé, c'était l'émission dernière, en fait.
Ouais.
17 morts et quelques personnes qui ont pu rentrer dans le pays. Mais moi, je ne comprends pas ce que c'est la loi immigration, en fait.
Christopher.
Alors, en fait, c'est une loi qui a été proposée par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, afin de durcir les modalités pour immigrer en France, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, l'aide médicale d'État, donc quand on n'a pas de... Enfin, il faut savoir que, voilà, quand on est en situation irrégulière en France, on n'a pas le droit à la sécurité sociale, on n'a rien pour aider pour les soins. Et du coup, si.
Non, il y a l'AME.
C'est l'aide médicale d'État.
Tu ne peux pas interdire l'AME.
Alors justement, ben c'est l'aide médicale d'État, c'est ce que je suis en train de parler.
Ouais,
c'est ce que je te dis, mais tu n'as pas le droit à la sécurité sociale et tout ça. Tu n'as pas de truc. Et du coup, il y a l'aide médicale d'État, donc l'AME, et ben en fait, ils ont durci les lois pour l'obtenir. Ils ont durci les modalités pour l'obtenir, par exemple, dans cette loi immigration. C'est tout des lois qui rendent plus difficile le fait de pouvoir venir en France.
Et de qui, manière légale.
De manière légale, et aussi qui rend les situations irrégulières, en fait...
Encore plus irrégulière,
ouais. C'est un peu ça.
Non, mais c'est vrai.
Pour que ce soit encore plus vite, pour qu'il y ait plus rapidement On va dire
des charters
d'évacuation pour les personnes qui ont des OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Voilà. En fait, c'est pour plus durcir l'accessibilité à l'immigration.
Si c'est plus difficile de venir dans le pays, ça sera plus difficile pour les immigrants.
C'est l'objectif de cette loi.
Ouais. C'est de leur rendre la vie plus dure pour qu'ils aient moins envie de venir chez nous. C'est con, hein, mais c'est...
C'est ça.
J'adore ta réaction.
C'est plus intelligent, quoi.
Je ne sais pas si c'est plus intelligent, Serge.
Non, mais je veux dire parce que je ne comprenais pas, en fait. Ouais. Ils font plus de lois que des personnes, même en régulier, qui viennent, qui voyagent comme ça. Ça veut dire en régularité, ils ne peuvent pas avoir des papiers, ils ne peuvent rien faire parce que, il y a l'immigration qui est posée sur la table du gouvernement. Et quoi.
Alors, l'exemple qui est souvent pris, c'est l'exemple du Canada et du Québec, où ils disent qu'ils voudraient calquer un peu le modèle sur le modèle québécois ou canadien, où c'est vrai que c'est assez difficile d'obtenir un visa ou d'obtenir la nationalité. Voilà, c'est compliqué. Puis il y a aussi que c'est beaucoup plus loin. Enfin, nous, on est concernés par l'immigration qui vient de la Méditerranée. Ceux qui sont dans la Méditerranée, pour immigrer au Canada, c'est quand même un peu plus compliqué que juste traverser la Méditerranée, quoi. Mais... Serge.
Ouais, je sais, mais il y a des quotas. En Italie, ils doivent surveiller 13 000 kilomètres. Ils viennent de l'Adriatique, de l'autre côté, tu ne peux pas interdire. Et après, il y a la frontière Brindisi, il y a des trucs qui viennent. Ils traversent pour aller sur la Manche, en Angleterre. Et quand il y a un bateau français ou anglais qui vient, les trois quarts, ils préfèrent mourir dans l'eau que de se faire arrêter et re-ramener en France. Bon, c'est tout. De toute façon, il y a beaucoup plus d'Africains que d'autres pays. En France, il y a 4,5 millions d'Africains. Ouais, après, il y a d'autres pays. Il y a les Maghrébins, il y a un tas de pays. Donc, pour arrêter l'immigration, si, il va y avoir un quota. Je suis obligé d'avoir un quota. Et après, il y a ceux qui viennent travailler en France, comme ils viennent prendre leurs études. Comme en France, il manque 6 000 médecins. Et après, tu auras des médecins marocains, tu auras des médecins tunisiens, tu auras des médecins, ils sont obligés de venir. Non, en Italie, ils vont venir 450 000 immigrés parce qu'ils ont perdu beaucoup de... Ils ont perdu beaucoup de...
De main-d'œuvre.
Ils ont beaucoup de trucs et il manque 6 000 médecins en France. Bon, c'est tout.
Ouais, l'immigration choisie, comme on dit, quoi. C'est... Moi, il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est qu'on rend les conditions de vie de plus en plus difficiles dans des pays d'Afrique, notamment, à cause de problèmes d'environnement, d'écologie, d'économie, de colonialisme. Enfin, voilà, on a créé tout un terreau qui font que ces gens-là, finalement, ils ont besoin de venir chez nous, des fois même pour des questions de survie. Et là, maintenant, on va leur dire, on vous a bien exploité, mais restez chez vous, s'il vous plaît, venez pas trop chez nous, parce que... Myriam.
Est-ce que vous pensez que la solution, ce serait peut-être d'améliorer leurs conditions de vie, de leur donner un maximum de moyens médicaux, enfin, tous les moyens qui puissent exister pour faire réduire cette immigration? C'est ça qu'il faut se poser, en fait.
C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Mais moi, je me demande s'il n'est pas déjà trop tard, déjà, d'un point de vue climatique, puisque la vie dans certains de ces pays va devenir quasiment impossible dans les décennies à venir. Ces gens-là, va bien falloir qu'ils aillent vivre quelque part. Ils ne vont pas attendre la fin de leur vie sous le soleil ou dans la sécheresse comme ça, sous prétexte qu'on veut d'eux nulle part ailleurs. Aline ?
Je rejoins un peu ce que Myriam disait. Est-ce qu'il ne faut pas justement leur apporter des conditions de vie dignes et des conditions de vie acceptables pour qu'ils aient envie de rester et qui donnent au pays dans lequel ils immigrent ceux qui sont capables de donner, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, il y a des vétérinaires, il y a des personnes qui dans leur pays avaient des métiers qu'on recherche nous en France et qui nous manquent en France. Est-ce qu'il faudrait pas mieux les faire travailler? On manque de médecins. S'il y a 200 médecins qui immigrent en France, est-ce qu'il faudrait pas justement prendre ces 200 médecins, les faire travailler utiliser les choses qu'ils peuvent nous apporter et utiliser les compétences qu'ils ont.
Ça, on le fait déjà, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Il y a déjà des médecins qui viennent de l'étranger, qui viennent de Roumanie, qui viennent du Maghreb, qui viennent de partout dans le monde, parce qu'il y a des pénuries dans certains corps de métier. Ça, sur cette immigration-là, sur des corps de métier bien précis, c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est toute l'immigration qu'on ne contrôle pas, en fait.
D'accord.
Alors, Serge et Nicolas. Vas-y, Serge.
Ouais, bon, j'ai un ami, il s'est marié avec une Ivoirienne. Il a eu 3 enfants, et là, il n'y a qu'une fille de Madagascar. Qu'est-ce qu'il y a à Madagascar ? Madagascar, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Alors ça va être pendant 15 ans, il n'y a rien. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. En Afrique, il n'y a rien, rien, rien.
Ça dépend, ça je ne peux pas généraliser, ça dépend de quel pays d'Afrique tu parles. Madagascar, c'est vrai que la situation est particulièrement compliquée. C'est vrai.
C'est des pays qui sont pauvres. Ils vont mettre 50 ans, un siècle avant de...
Tous les pays d'Afrique ne sont pas pauvres, hein, tu sais. Il y a aussi des pays d'Afrique qui s'en sortent bien.
J'adore.
Entre autres. Nicolas.
Je pense qu'il y a plus de musulmans que catholiques. C'est normal qu'en Afrique, il n'y a pas d'électricité.
Il y a l'électricité en Afrique, tu sais, Nicolas.
Bon, moi, je savais quoi.
Et j'ai un ami, il titularise les sans-papiers.
C'est son métier, tu veux dire?
Oui, okay. Il les déclare.
Ok.
Maintenant, il fait tout le nécessaire.
Ok, c'est bien.
Celle de Madagascar, il a fait tout le nécessaire. Il a sorti d'un foyer. Il a fait tous les papiers nécessaires pour qu'elle soit titularisée française.
Bon, on va terminer sur cette discussion-là, hein, qui est un peu partie dans tous les sens et sans réponse vraiment bien précise à toutes ces questions. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui n'avaient pas compris certaines choses parmi vous aient un peu plus compris ce qui se passe, j'espère. Musique avec un groupe qui s'appelle Banturle, qui est un groupe d'un auditeur fan de notre émission Les Entonnoirs, qui nous a écrit la semaine dernière, qui va bientôt venir nous rendre visite. Et comme il fait partie d'un groupe et qu'il nous a envoyé un lien pour écouter le groupe dont il fait partie, on va l'écouter maintenant. Je vous demande d'être assez attentif. C'est très spécial, je ne suis pas certain que vous ayez déjà entendu un groupe comme ça, mais c'est vachement bien. Ça s'appelle Banturle.
Alors les petites Banturles, on est en train de faire beaucoup de bruit dans des micros. Avec des petits boutons partout. On se sent plus grand ou on se sent plus petit face à cette débauche de technique.
La raison, elle t'appartient. Personne n'a de procuration pour organiser la résonance de ta raison. Nos mots écrits dans le silence de nos raisons actent notre vie. L'image se perd dans l'arbre mort tentaculaire. Nos oublis s'accumulent, nos ennuis s'accélèrent, rien time for time, tout le temps en contre-temps, et j'adore ça!
social club, réunis autour de sa table ronde, des pensées libertaires impliquées dans le choix béhavoriste de nos amplitudes d'action. Dimension, qu'en dira-t-on, qu'en dira-t-on? Rude occasion de questionner. Nous nous engageons à venir en aide aux abécédaires identifiés. La place nette ultra-chicos, sans tuffeur noctambule. Move in true vérité. Votons gun sur la tempe pour rat de gouttière autiste. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir l'impression d'exister. Record en tout genre. Les médias adorent afficher la société record. Ingurgiter 10 galettes saucisses en moins de 3 minutes prend toute la première page. Crever, bouffé par la faim et le froid, 3 lignes à la 10e page. Seule économie moderne des grands calculateurs, entassés pour être respectés, éjectés pour économiser du papier. Notre système économique économise. Lu et approuvé, Baboyek, autiste sans parole.
Suite et fin de l'émission 769 des Entonnoirs avec la météo de Malika.
Jingle.
Seigneur météo, quando dit-il fait beau. Seigneur météo, à la glace et frigo. Aïe, aïe, Seigneur météo, quando mi transistor, espérance, calor, il attend. Que dolor!
Bonjour auditeurs et auditrices, voici la météo de la métropole lilloise. Samedi 27 janvier, 1 degré le matin et 6 degrés l'après-midi. Dimanche 28 janvier, 5 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Nuageux tout le week-end. C'est devant son micro-ondes que l'on se rend compte à quel point 2 minutes c'est long.
C'est de qui ça?
Okay. C'est de Christopher. Bravo.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à tous de l'avoir animée. Ici, autour de la table, on va se quitter avec un choix musical de Léo. Tu vas nous présenter, Léo.
Merci. Oui, alors moi, je voudrais faire un petit dédicace à mon prof de piano qui m'a beaucoup aidé dans ma progression jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'ai pu un peu me renseigner sur ses chaînes YouTube et son Instagram. J'ai vu qu'il y avait pas mal de compositions originales de lui-même. Donc voilà, je voulais lui faire un petit hommage. C'est un musicien de chez nous, un Armentierrois, pardon, qui est surtout connu initialement comme pianiste accompagnateur, notamment dans les chorales, pardon, du coin. Et il s'avère qu'il compose également ses propres musiques. Donc là, je voudrais vous faire partager sa dernière création, Nécromancia.
Merci. À la semaine prochaine, les Entonnoirs.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Salut. Salut.
Thank you.
savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.